Parlons sport un peu, Ray. Bonjour, bon dimanche.
Bonjour, Paul.
Avant toute chose, parce que Ray a fait une liste extraordinaire, un survol de l'année 2020. Vous savez à quel point le sport professionnel, universitaire, collégial et olympique aura été marqué au fer chaud par la pandémie. Et tu as fait une liste des événements importants à survoler. Je voulais juste qu'on fasse le point rapidement sur la rencontre des gouverneurs dans la Ligue nationale de hockey et ce qui nous attend en début de semaine, à partir de demain, avec les autorités sanitaires pour une relance du calendrier de la Ligue nationale.
Alors, les gouverneurs se sont rencontrés hier par téléphone, Paul, et puis on pensait peut-être avoir un vote du côté des dirigeants propriétaires, puis ça n'a pas eu lieu. C'est peut-être aujourd'hui, ça va se faire dans les 24 prochaines heures. On a tous confiance que le vote va être favorable d'un côté patronal, autant que du côté des joueurs. Alors ça, c'est une chose qui est en lice. Le point le plus important, c'est une histoire de TSN qui est sortie hier en disant que la Colombie-Britannique et les Canucks ne pourraient pas, pour le moment, accueillir des équipes, même dans la division canadienne, en déplacement vers Vancouver et ne permettraient pas aux Canucks de circuler à travers le Canada et revenir à Vancouver. Alors, ça, c'est un premier obstacle à l'intérieur de la division canadienne. C'est pas réglé encore, on négocie encore, mais c'est quand même... Ça pourrait un peu dérailler leur plan. Ils seraient peut-être obligés de relocaliser, soit peut-être par exemple en Saskatchewan, peut-être en Ontario, peu importe. Mais ils pourraient peut-être pas jouer à Vancouver durant les 56 matchs à l'intérieur même de la division canadienne.
Est-ce qu'à la rigueur, ils pourraient jouer de l'autre côté de la frontière dans ce qui sera une future concession là, dans de moins de 2 ans? À Seattle.
Oui, bonne idée, mais la réponse est non, à cause de la frontière canadienne.
OK.
Alors ça remet la même situation devant nos yeux. Mais ils vont trouver une solution, et comme on l'a dit hier, les 5 provinces travaillent individuellement et collectivement. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est plus libéral dans une province, on l'est moins dans l'autre. Alors, ça, c'est une chose qui est importante. Puis la seule autre chose à mentionner là-dessus, c'est que c'est encore possible, selon les sources à qui j'ai parlé hier, d'avoir une ville-bulle canadienne à l'intérieur même de la division. Ça, c'est pas une alternative qui est éliminée encore. C'est pas la préférence, bien sûr. Parce que, Paul, si jamais on devait faire une seule bulle, là, tu perds des revenus de commandite à l'intérieur de ton amphithéâtre. Même si tu joues sans partisan, il y a quand même de la visibilité sur les bandes autour de la glace, sur la glace, et même le nom de l'amphithéâtre est valorisé, puis ça vaut quelque chose aux yeux parce que ça va être diffusé à la télé puis à la radio. Si tu fais ça dans un seul endroit, ben il y a 6 endroits qui n'auront pas pu profiter de cette commandite locale-là. Fait que c'est une question de revenus.
Sur le nom du building, mais ils pourraient quand même avoir leurs annonces sur leur bande.
Moins facilement, par exemple. Parce que tu serais obligé de jouer 2-3 matchs par jour. Puis dans le cas d'une division canadienne, 56 matchs, 7 équipes, c'est sûr que tu as des doubles, des triples. Puis là, tu devrais constamment faire des changements de visuel sur les bandes. Et la glace ne pourrait pas forcément offrir la même valeur. Donc, il y a une perte de revenus de ce côté-là.
Et si une ville comme Vancouver peut pas, ou la province d'Ontario également, c'est difficile, ou Montréal, tu peux avoir une bulle canadienne et dans 20 matchs, tout se résorbe, ben pas se résorbe, mais c'est moins... Tout le monde rouvre, mettons, les provinces, puis tout le monde peut retourner dans son marché si tu fais ta bulle au Canada. T'sais.
Oui, mais pour le moment, la Ligue nationale ne planifie pas de faire un calendrier qui est divisable en 2 ou en 3. Okay. Lorsque le calendrier va sortir dans les 2 prochaines semaines, ça va être le calendrier de la saison.
Ray, on a beaucoup de gens, d'auditeurs qui veulent savoir, est-ce que Québec aurait des chances à l'amphithéâtre Vidéotron d'être une... un endroit refuge, si ça tournait mal.
Tout est possible, Paul. T'sais, c'est certain que c'est un amphithéâtre de calibre Ligue nationale. Alors ça, c'est déjà un avantage. T'sais, une des raisons pourquoi c'est pas vraiment intéressant pour les équipes canadiennes d'aller aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas 7 autres amphithéâtres de calibre Ligue nationale. Puis calibre Ligue nationale, ça ne veut pas juste dire la qualité de la glace, puis les baies vitrées, puis la capacité de spectateurs, même s'il n'y en a pas. C'est la technologie à l'intérieur. Par exemple, les caméras installées pour les reprises vidéo, tout ce qui a rapport à offrir la qualité de diffusion d'un match. Ah ben là, tu n'en as pas 7 qui existent aux États-Unis, puis je suis pas certain que c'est nécessairement le cas à Québec, mais ça, j'ai pas la réponse.
Dans l'histoire du sport professionnel, universitaire, olympique et tout ça, je crois, Ray, qu'on n'a jamais vu une année de bouleversements comme 2020, liés bien sûr à la propagation foudroyante et qui a évidemment qui s'est transformée en pandémie. Mm-hmm. Tu as fait une liste de 20 grands événements qui ont marqué 2020 et on n'aura peut-être pas le temps de faire le décompte de 20 à 1, mais vas-y, lance-toi sur ce qui a marqué et bouleversé le sport.
Je vais résumer rapidement, Paul, parce qu'il faut que ça ait un caractère historique. C'est pas les événements les plus importants en termes de résultats ou d'accomplissements ou de souvenirs. C'est ce qui a marqué l'histoire. Et je pense, premièrement, là, en 20e place, Alphonso Davies, un jeune Canadien qui joue pour le Bayern Munich. C'est déjà extraordinaire et gagne la Ligue des champions. Alors ça, faut le souligner, c'est le Wayne Gretzky du soccer canadien.
Et il a été voté un des meilleurs joueurs de foot au monde.
Absolument, absolument. Il est pas loin de la catégorie, dans la lignée bien sûr, avec le temps de Messi et Ronaldo, en termes de talent. Mais il y a 19-20 ans, donc on a le temps pour lui. Un peu plus loin, là, je pense au SoFi Stadium qui est ouvert à Los Angeles, Paul. Un bijou de 5,5 milliards de dollars. Qui aurait cru qu'en 2020, on paierait 5,5 milliards pour un stade? Et encore une fois, il n'y a pas eu de spectateurs jusqu'ici cette saison. Mais le stade est prêt, il est ouvert, c'est un bijou. On va le voir éventuellement de nos yeux avec 75 000 personnes dedans.
Évidemment, dans ta liste, c'est la première fois que les Jeux olympiques d'été ne sont pas présentés aux dates fixes depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Tout à fait. Et puis, c'est même pas encore certain que ça aurait lieu à Tokyo en 2021 pour toutes les raisons qu'on connaît. Pandémie, déplacement, contrôle, test à résultats rapides pour les athlètes et les officiels. Ça, c'est une autre chose importante. Deux choses que je veux souligner aussi. Laurent Duvernay-Tardif, premier Québécois à gagner le Super Bowl. Lui a connu une année exceptionnelle. Les hommages, les honneurs pleuvent dans son cas. Alors, bravo à Laurent Duvernay-Tardif. Lui aurait eu toute une année. Je pense aussi à Rafael Nadal, qui a gagné un 13e titre majeur dans une seule ville, à Roland-Garros. Ça, dans la domination du sport, je ne suis pas certain qu'un athlète... Le seul qui me vient en tête, c'est Michael Phelps. Mais Michael Phelps l'a fait au niveau des Jeux olympiques, dans 10 disciplines différentes, à travers 4 Jeux olympiques. Ça, c'est gagner le même tournoi majeur 13 fois. Incroyable.
Il faut dire que tu as certainement mis dans ta liste, c'était en tout début d'année, alors qu'on ne parlait même pas de pandémie, la mort de Kobe Bryant.
Oui, mais dans la même année, on a perdu David Stern comme dirigeant sportif, que je compare à Walt Disney et à Steve Jobs dans la vision du sport. Kobe Bryant, un athlète planétaire dans le monde du basketball qui était aimé partout, et Maradona, bien sûr. Ce sont les trois grands parmi une douzaine d'athlètes légendaires qu'on a perdus en 2020.
Il y a eu des changements sociaux énormes. Évidemment, Black Lives Matter a également profondément et va marquer encore pour les années à venir le sport professionnel.
Ouais, ben dans les deux cas de mouvements sociaux, de changements sociaux, Paul, je veux juste faire un bémol sur l'arrivée des femmes dans des pouvoirs, dans des postes de décision dans le sport. Ça, faut le souligner. Parce que c'est pas juste là des adjointes. Non, non. Directrice générale des Marlins, Kim Engie, mais aussi des présidentes, des coachs dans la NFL sur le terrain, Paul. Tu les as vus, là. Il y en avait une qui est avec les 49ers cette saison. C'est incroyable. Et dans la NBA, il y en a 13 dans la NBA, dont Becky Hammon, qui est la potentielle prochaine entraîneur-chef d'un club de la NBA.
Elle pourrait.
Ça, c'est incroyable. Absolument. Mais quand on parle de plafond de verre, là, ce plafond a explosé en mille miettes. Il reste encore du travail à faire, par exemple.
Absolument. Et Black Lives Matter, ben ça, c'est le mouvement qui va être mémorable dans l'histoire parce que parmi tout ce qui s'est fait au niveau social, culturel, politique, c'était une année très explosive, très volatile. Les athlètes s'en sont mêlés, Paul. Les athlètes ont joué un rôle important dans le vote américains, c'est-à-dire d'aller voter. Ils ont participé pour encourager les gens. Ils étaient dans les rues, de LeBron James jusqu'à Naomi Osaka. Faut le souligner, Black Lives Matter a pris une place importante. Ça va être moins important en 2021. Par exemple, la NBA n'aura pas de visuel de Black Lives Matter sur le terrain dans la saison qui débute mardi soir dans quelques jours. Mais c'est quand même quelque chose qui va rester avec nous parce que ça ne s'est pas arrêté après une manifestation.
Bon.
Ça s'est poursuivi tout l'été.
Alors, on bouscule et on dit tellement de choses ce matin. C'est la dernière. Je voudrais te remercier, Ray, et dire à quel point, avec Martin, même avec Thérèse aussi, on a du plaisir à échanger avec toi. J'espère qu'on pourra le faire régulièrement pendant tous les week-ends lorsque nous serons de retour dans deux semaines. Très rapidement, moi, c'est venu me chercher le Rose Bowl le 1er janvier, ne sera pas présenté dans le stade du Rose Bowl.
Oui, Paul, c'est le stade le plus magnifique, mythique des bowls américains à Pasadena. T'es allé voir un match là-bas. J'en ai vu un, moi aussi. C'est presque 100 000 personnes à Pasadena, en Californie. Imagine, déménageant à Dallas, dans le stade de Jerry Jones et Cowboys, le même jour. Mais Paul, il y a déjà 13 bowls américains qui ont été annulés. Alors, c'est le signe, encore une fois. Puis il y a des équipes qui refusent des invitations parce que ça a été trop pénible, la saison actuelle. Hey, on espère que ça sera mieux l'an prochain.
Quelle maudite année! Elle est maudite.
Vivement 2021.
Mais Paul, je voulais juste vous souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde, aussi, à toute l'équipe, à nos auditeurs. Puis merci pour le privilège d'être avec vous à tous les week-ends.
C'est réciproque.
Joyeuses fêtes, Ray.